tous. Avant minuit, il y a midi. En prévision de la nuit des idées, rendez-vous aujourd'hui avec l'anthropologue Philippe Descola. Face au présent, thème de cette quatrième édition, comment l'auteur de Part de la nature et culture se positionnera-t-il? Quels sont selon lui ses enjeux de demain qui n'attendent plus? Philippe Descola nous rejoindra à partir de midi 55. Mais d'abord, prix spécial du jury au Festival d'Angoulême pour son roman graphique Les Rigoles, paru chez Actes Sud. Le flamand Brecht Evans est notre invité avec sa palette de couleurs et ses visages aquarelles. Une balade romantique, onirique ou page après page, tout peut arriver. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Les Rigoles ou la balade des noctambules dans un Paris imaginaire. Bonjour à vous, Brecht Evans.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Après un premier prix de l'audace en 2010 pour Les Noceurs, le jury d'Angoulême a une fois encore salué la singularité de votre œuvre. Rapide, efficace. Vous êtes là, vous percez, vous êtes entré dans ce monde de la bande dessinée et du roman graphique avec la reconnaissance de ce festival et de vos pairs. Vous y avez fait des belles rencontres cette année à Angoulême.
Oui, par exemple, le vendredi, il fallait qu'on fasse un concert dessiné. Donc et j'avais pas encore rencontré le musicien avant, donc on a fait le concert avec Chassol et ma copine Céline.
Et c'était bien?
C'était génial. En fait, c'était pas cool, c'était stressant jusqu'au moment où ça commençait. Et là, c'était plutôt un truc de si on va merder, on va merder maintenant. Et en fait, on a plutôt peu merdé. Ou très joliment merdé.
Qui d'autre? Quel dessinateur aviez-vous envie de connaître? Quel scénariste? Quelle personnalité du monde du roman graphique vous aviez envie de rencontrer? Émile Ferris a été consacré cette année, notamment par le Festival d'Angoulême. C'était le Grand Prix. Vous avez feuilleté sa BD Monstres, sur les monstres.
Oui, je l'ai en grande partie lu déjà. Je sais même pas si c'est idéal pour rencontrer des auteurs Angoulême, parce qu'on est tous peut-être tournés vers les lecteurs, donc on est en général épaule à épaule, mais avec le visage vers les lecteurs plutôt.
Vers les lecteurs.
Donc je saurais pas te faire une liste de magnifiques auteurs que j'ai rencontrés ou vraiment.
C'est pas le lieu finalement. Et peut-être que la meilleure manière.
On fait ça discrètement, ouais. À Paris, par exemple.
Peut-être que la meilleure manière de se rencontrer, c'est d'entrer dans vos livres à chacun. Émile Ferris, parce que comme vous, elle a jeté sur les pages et des pages et des pages entières tout ce qu'elle avait dans la tête, toutes ces choses vues et entendues ou imaginées.
C'est très sauvage comme livre graphiquement et avec il y a le prix Révélation, c'est Emily Gleeson avec Ted Drôle de Coco. C'est un livre très, très explosif aussi, visuellement et tout. Donc je suis super content d'être... on ne dit pas couché entre ces deux-là, c'est bizarre. Être entre ces deux-là sur ce palmarès, c'est assez wild.
Et vous, vos rigoles, vous les qualifieriez comment, ce roman graphique? Il est wild aussi? Il est plutôt sauvage que sage?
Oui, je trouve. Ouais.
Voilà, on a un animal de la nuit et un animal sauvage avec nous, Brecht Evans, jusqu'à midi et demi. Avant de quitter Paris pour Berlin, Jonas, votre personnage principal, s'offre une dernière virée. Il tend l'oreille aux conversations des anonymes, il fait des rencontres, des repris de justice, des rois de la nuit, des Cléopâtres d'aujourd'hui. On est assis avec lui à la terrasse d'un café, ou mobile, en taxi ou à pied. La drogue, petit à petit, va faire son effet. Good trip, bad trip. On est bien ce soir, non? Avec Jonas.
On est bien avec lui au début, et puis commence à avoir de plus en plus de trucs qui clochent, ou des petits problèmes qui commencent à lui... des choses faites dans le passé qui commencent à lui chasser, à lui harceler au fur et à mesure.
Quelle est votre conception à vous de la nuit, Brecht Evans?
Ça, c'est une question très très large. Je peux te dire peut-être plutôt...
Je peux peut-être la resserrer. La nuit, on a le sentiment qu'il y a, en tout cas à travers vos pages, un effet de trop-plein, trop de mots, de rire, d'alcool, de lumière. Est-ce que pour vous, ce temps-là, c'est celui des masques ou au contraire, c'est le moment, la nuit, où tous les masques tombent?
Ouais, peut-être il y a un truc que je peux te dire sur En tout cas, pourquoi tout ce livre se passe dans la nuit, c'est que peut-être dans la jour, on a le, dans le jour, déjà, il y a les boulots, les choses qui nous sont imposées. Il y a le grand ciel bleu et le soleil sur nous. Et la nuit, toute la lumière qu'on voit, c'est fait par, par nous. C'est-à-dire tout est artificiel et tout ce qui est illuminé, ce sont des enseignes, des... J'ai de toute façon un amour enfantin des lumières coloriées. Et ceci, il y en a partout dans le livre. Donc c'est vraiment partout, nous, avec la liberté de parler. Et dans nos lieux artificiels et temporaires comme ça.
Il vient où ? Il vient d'où votre amour à vous pour les lumières ? Vous dites de l'enfance.
Ah non, je dis enfantine. Je crois que beaucoup de gens aiment les néons et les LED. Moi, j'en suis un.
Les néons, c'est souvent des lumières un peu plus froides. On préfère les lumières chaudes, non ?
Je vois, froides. Mais disons les néons Broadway, une sorte d'art qui se perd un peu et là de faire des enseignes. C'est une sorte de truc très artisanal, mais tout ça, c'est une autre conversation, si vous voulez.
De quelle expérience vous êtes-vous inspiré pour ce roman graphique, Brecht Evans ?
C'est un livre très personnel. J'en ai fait un similaire, justement, il y a, on va dire, 8 ans, ou quelque chose. J'en ai fait un début de la vingtaine qui racontait la nuit, comme ça. Un peu ma façon de vivre les sorties à l'époque. Et ceci est comme... une chose de fin du vingtaine. Quand je l'ai commencé, j'avais 28 ans. Donc, il y a beaucoup de tout ce qui s'était passé avec moi entre-temps, pendant la vingtaine. C'est pas un règlement de compte, c'est nourri de cette expérience. Le personnage Yona, dont vous parliez, c'est basé sur un ami. Rodolphe est le plus inspiré par moi, et Victoria, aussi d'une amie qui existe en vrai. Après, tout ça, je l'ai tordu et perverti à ma façon.
Mais c'est-à-dire que les nuits, vous les avez parcourues vous-même. Est-ce qu'il faut se méfier, peut-être apprendre à connaître votre visage, se dire que si vous vous asseyez à côté de nous, dans un café, la nuit, vous prendrez note sur des carnets de tout ce qui se dit. Est-ce que vous avez passé du temps à attraper toutes ces bribes de conversation qu'on retrouve ici réunies ?
J'ai fait ça, mais pas tant qu'il faut s'inquiéter de s'asseoir à côté de moi. Par exemple, en fait... C'est bizarre, mais en fait, j'écoute pas très bien les gens, finalement. Peut-être, occasionnellement, j'attrape une bribe et je le note, mais j'ai ma copine qui écrit aussi, c'est toujours elle qui me tape sur l'épaule à dire « t'as bien entendu ». Ça, c'est vraiment génial. Et du coup, parfois, je la vole des phrases qu'elle a notées, ou parfois, on fait un petit marchandise, toi, tu auras celle-là, et moi, celle-là. Mais je suis pas un super chasseur de bribes.
Donc les autres, vous les imaginez, vous les inventez.
Ouais, quand même, finalement, j'arrive à écrire des dialogues humains convaincants sans les avoir transcrits.
Ouais. Transcrits ou volés.
Volés.
On va revenir à cette balade dans la nuit, à vos noctambules, Brecht Evans, à travers les mots d'un autre peut-être. Lui, il vit à Berlin. Aujourd'hui, il a finalement réussi à y aller. C'est le philosophe Michael Fossel qui raconte son désir de nuit, son appel de la nuit, dans un ouvrage paru, La nuit, vivre sans témoin.
C'est vrai que j'ai essayé de faire de la nuit, ou de décrire la nuit comme un espace d'expérience, comme un espace aussi propre à certaines pensées, des pensées un peu insistantes, des pensées dont nous ne maîtrisons pas le terme. Et j'ai donc essayé de réhabiliter la nuit par rapport à une tradition philosophique, en tout cas une certaine compréhension des lumières, celles qui marquent la primauté des idées claires et distinctes du jour, du soleil sur la nuit noire, et en fait de compliquer un peu ce rapport pour montrer que la nuit, elle est habitable parce qu'elle est un monde. Elle n'est pas nécessairement l'absence de monde, elle n'est pas nécessairement liée à cette angoisse que non seulement nous pouvons expérimenter dans certaines expériences d'insomnie, mais aussi que le mot nuit souvent évoque avec toute sa charge sémantique un peu ténébreuse. C'est le cas de le dire, et j'ai voulu essayer de montrer comme ça par touche qu'il y a dans la nuit non seulement des possibilités d'expérimenter ce que le jour ne permet pas, mais aussi des possibilités de penser et je dirais même de voir paradoxalement des choses ou des lumières que le jour masque.
C'est donc comme ça qu'il faut répondre à cette question. C'est, oui, ça c'est bien fait.
On vous retranscrira si vous voulez.
Oui.
Enfin, vous signez à tout. Quand il dit, Michael Fossel, que la nuit, c'est un monde, il y a un monde, et c'est pas l'absence de monde. Mais est-ce que c'est un autre monde, Brecht Evans? Comment vous raconteriez ce monde de la nuit? Comment vous le percevez?
Peut-être c'est là qu'il y a l'énorme différence entre ville et campagne, surtout, non? Que c'est la nuit que la ville est vraiment le plus la ville. Il y a la différence entre ville et campagne est beaucoup moins la jour que la nuit.
C'est pas les gens qui sont différents pour vous?
Bah déjà, ils sont souvent bourrés, donc ils disent plus ce qu'ils ont sur leur esprit.
Au bout d'un moment.
Ouais.
Ça vient tout doucement.
Oui, oui, et dans le livre, les suit jusqu'au fin fond de tout ça, en tout cas.
Est-ce que ce monde, vous l'admirez? Est-ce que ce monde, vous l'idéalisez? C'est pas si sûr. Hein. Paris est une fête, ça c'est ce que disait Hemingway, mais on a l'impression que pour vous, c'est quand même aussi une triste fête, une fête un peu vaniteuse, capricieuse, ces nuits à Paris.
Ben, ces personnages, la nuit, ils ont tout ce qu'ils vont faire, c'est leur propre choix. Donc tout ce qu'on leur voit faire, le temps de dans ces courtes périodes, sera leur propre petit triomphe ou leur propre petite connerie. Ce qui aurait peut-être moins. Je crois que idéaliser. Je vois un joli contraste entre mon vieux livre Les Noceurs et celle-ci.
C'est que vous avez grandi déjà.
Ouais, par exemple, Les Noceurs, j'avais 22 ans, donc les grandes sorties que je décrivais étaient, et c'est pas un défaut nécessairement, étaient des nuits rêvées, c'était une fantaisie de la sortie. Et il y a ça aussi dans le nouveau, parce que voilà, c'est quand même plein d'exagérations, plein d'ambiance Fellini, des choses qu'on pourrait peut-être trouver en miettes gauche et droite, mais c'est vraiment concentré là, dans les lieux que je dessine. Mais ce n'est plus une fantasme de la sortie. Je crois que les comportements des gens sont plus, j'en sais un peu plus depuis.
Est-ce que vous aimez, vous, l'anonymat des grandes villes?
Ouais. Ouais, absolument.
Pourquoi? C'est là où vous êtes le plus vous-même?
Ça dépend. J'habite à Paris depuis 5 ans, et avant, j'habitais à Gand, qui est une magnifique ville, mais petite. Donc, c'est-à-dire que ça se passait bien, autant que j'allais très bien, mais à un moment, j'ai commencé, pour des raisons, à aller très mal, et là, du coup, rencontrer tout le monde, tous les acteurs dans ta vie, les raconter vraiment tout le temps, le moment où on s'assoit sur une terrasse, voir passer toute sa vie sociale, était claustrophobique. Ça m'a aidé, je crois, de pouvoir me cacher dans une grande ville comme ça, où en théorie tu peux changer d'arrondissement et t'as changé de ville.
Et quel est le meilleur poste d'observation pour vous dans une ville de cette petite société humaine? Est-ce que la vérité des villes et des hommes, elle s'observe plutôt au ras du bitume ou vue d'en haut? Parce que vous avez ce double regard.
Ras du bitume, je ne suis pas...
Très proche du sol, au ras du bitume.
Je suppose le bitume, mais en fait je ne saurais pas dire. Je ne connais pas la loi sur l'écriture.
Est-ce que vous êtes, vous, un homme d'habitude, Brecht Evans, ou est-ce que vous aimez le changement?
Habitude, je crois. Je dois me forcer à... si c'est pour vivre des aventures ou... voisinant ça, pour faire de la recherche, il faut que je me pousse à le faire. Sinon, j'ai des réflexes ultra conservateurs d'aller... j'ai mon boulangerie, j'ai mon café, voilà, je suis plutôt un homme d'habitude. Heureusement, pour mon pratique artistique, l'aventure est venue me chercher dans l'époque avant de commencer les rigoles. C'est ça la période où j'allais mal dont je parlais. C'est que j'ai fait un épisode bipolaire, c'est-à-dire aller très mal, puis aller incroyablement bien. beaucoup trop bien. C'est la dépression maniaque que j'ai eue. Ça, entre-temps, ça a été bien guéri et fait disparaître. Mais de cette courte expérience que j'ai eue, je pourrais en tirer pas mal de choses pendant longtemps. Et après, je vais devoir probablement me forcer à vivre une aventure ou faire proprement les recherches de nouveau.
Est-ce que cet arc-en-ciel que vous avez dans la tête et qu'on retrouve dans votre roman graphique, qui est un feu d'artifice, un arc-en-ciel de couleurs extrêmement lumineux, cet arc-en-ciel, est-ce qu'il arrive aussi, toutes ces couleurs, entre l'orage et l'éclaircie? Vous parlez de ces moments de dépression et de ces moments où ça va mieux. Est-ce que les couleurs arrivent dans votre tête, dans cet entre-deux, et l'envie de dessiner?
Ça, c'est une question difficile. Donc, vous commentez combien de couleurs il y a dans ce livre. Il est possible que dans les extrémités... Oui, ça doit être dans l'entre-deux. Bon, je vais tenter d'y répondre correctement. Je travaille bien et j'utilise beaucoup de couleurs et de nuances et je dessine bien quand je vais plutôt bien et normal. Et le plus que j'allais à l'époque vers des extrêmes, le plus je commençais à dessiner très rapidement et en noir et blanc et pour exprimer quelque chose, si ce soit en dépression, faire des minuscules dessins et écrire tout petit, ayant presque honte d'être en train de mettre quelque chose sur papier, ou dans la manie, c'était par vitesse et inspiration fou, il n'y avait pas le temps d'aller faire du chichi et faire de l'esthétique, parce que là, il fallait raconter des choses importantes au monde, par exemple. Oui, si vous voulez, l'arc-en-ciel vient entre l'orage et
l'éclaircie.
Voilà.
Oh. Avec vous, chaque personnage a une couleur, Brecht Evans, leur parole aussi. Alors on a le bleu pour Jonah, le rouge pour le baron, le jaune pour Vic. Est-ce que ce choix des couleurs est anodin?
Je trouve pas. C'est peut-être il y a un grand côté technique à tout ça. Moi, je veux distinguer clairement avec quel personnage on est. Il y a plein d'avantages techniques à des choix comme ça. C'est que on sait très bien avec qui on est. On peut et parce que les personnages souvent contrastent avec leur décor côté couleur, ça veut dire que aussi les décors vont souvent avoir des autres tons qui dominent dans les différents récits. Et sinon, à part ça, je leur donne pas, je fais pas des choix genre rouge parce qu'il est passionnel ou tu vois, pas trop ça. Faut que j'arrête de toucher le câble du micro là.
C'est pas pour ça. Et eux, est-ce qu'ils aiment le changement? On a posé la question très inconsciemment au quatuor rock belge Balthazar qui vient de sortir un nouvel album.
I'm not the man for changes. What does it mean to you? I try to change the obvious, but somehow I just never do. You think that I'm unsettled, but actually I don't think that I am. Too many old bad habits, still I wouldn't want to change a thing. It goes on and on and on and on and on. Wanna love you like I never loved no more. Watch the time as it moves on. Sometimes it feels we're cursed, but if I imagine those changes, well, somehow they will make it worse. Yeah, you say I'm always looking for something, babe, and it may be yes that I am, but doesn't mean that I would ever want to change. On and on and on and on and on. Wanna love you like I never loved no more. Watch the time as it moves on and on.
Et leur nouvel album s'appelle Fever. Balthazar, groupe belge. Ils sont quatre et ils seront en concert le 25 mars au Casino de Paris, à travers toute la France en avril et notamment le 4 mars, un peu avant, à l'Aéronef Club de Lille. Vous les connaissez ?
Ouais, ils étaient dans le même milieu de festif à Gand. Ils étaient d'ailleurs super jolis et adorables.
Vous aimez les rythmes ?
Les rythmes ?
Le rythme de cet album ?
Un peu oui.
Groovy, c'est lumineux aussi.
Absolument.
France Culture, il est midi 23 avec notre invité, le dessinateur et scénariste de bande dessinée Brecht Evans pour son roman graphique Les Rigoles qui est paru chez Actes Sud.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Brecht Evans, vous êtes un styliste hors pair et c'est vrai, vous avez un sens du détail, de la précision qu'on retrouve dans chacun de vos dessins, dans chacune de vos pages. Est-ce que la démarche du dessinateur est un peu semblable à vos yeux à celle du couturier dans la mode, tailler, ciseler la matière de la même manière qu'un couturier au millimètre près pour lui donner de la forme ?
Déjà, merci beaucoup. Je sais pas comment une couturière vit son métier, mais déjà c'est un des aspects. Rigole beaucoup plus que les autres livres. J'ai été, faut pas que j'utilise le mot maniaque dans le mauvais contexte. Donc disons obsessif du détail. Ça a été le livre où je voulais vraiment. Justement, dans l'expression en flamand, pas laisser tomber les, quand on coude quelque chose. Bon, pas faire des erreurs bêtes dedans et vouloir avoir pensé à tous les détails du décor et aussi beaucoup aux vêtements. Comment le design des personnages. Il y a longtemps, par exemple, j'avais fait une BD avec. J'étais encore plus jeune, genre 20 ans ou quelque chose. Et tout le monde portait tout le temps des pulls au gros col roulé. Et juste une amie avait remarqué qu'on avait l'impression que tous les têtes sortaient d'un anus, en fait. Et c'était vraiment un truc auquel faire gaffe. Donc elle m'a mis sur la piste de « Regarde quand même un peu quel genre de vêtements tu vas dessiner le long d'une BD aussi. »
Et malgré tout, vous portez un col roulé aujourd'hui.
Ouais, et ma tête a donc l'air de sortir de...
Non, s'il vous plaît.
Il est plus fin.
On ne voit rien. Et on n'entend rien, surtout. Vous avez fait le choix de l'aquarelle, Brecht Evans. Pourtant pas facile à manier. Vous ne pouvez pas effacer, vous ne pouvez pas gommer. Est-ce qu'il vous arrive de tout recommencer ? Combien de croquis vous faites avant d'arriver à une planche définitive ?
En fait, c'est le grand avantage. Le travail en direct a un énorme avantage de... Ça provoque la concentration. Il y a un risque. J'ai récemment encore tenté de faire quelque chose d'une façon plus classique, c'est-à-dire faire un crayonné. Bon, j'avais quand même défoncé le bon ordre. C'était ancré un croquis et colorié. Et il y a le risque de faire trois fois un boulot similaire et aucun des trois fois être maximalement concentré. Et, en fait, c'est plus difficile à gérer que quand on voit petit à petit, et de très clair à plus en plus foncé, apparaître l'image. Voilà.
Du bon usage de la couleur et de la matière, le dessinateur et coloriste Emmanuel Lepage, auteur de Un printemps à Tchernobyl et aussi des voyages d'Ulysse, nous en parle.
La gouache acrylique est quelque chose que je ne comprends pas. Quand je dis je comprends pas cette technique, c'est que moi je pense à l'aquarelle. En fait, mon médium c'est l'aquarelle. À l'aquarelle, le moins est le mieux. Voilà, c'est-à-dire que il faut anticiper, je dirais, les couleurs, parce que à chaque fois que vous posez une couleur à l'aquarelle, ça va éteindre la lumière. La lumière vous est donnée par le blanc du papier. Donc plus vous mettez de couches, plus vous éteignez cette lumière. Donc il faut anticiper les couleurs pour garder cette luminosité, parce que l'aquarelle peut être très très lumineuse. À l'acrylique, au contraire, où vous pouvez effacer les couches qui sont dessous, vous travaillez en matière, et la lumière, vous pouvez la donner à la fin. Enfin, disons que à l'acrylique, le papier est une forme de palette sur laquelle vous vous battez sur le papier, vous sculptez parfois votre dessin à même le papier. À l'aquarelle, c'est très souple, vous voyez, c'est une petite boîte, mais il faut tout anticiper. Voilà. Et moi, j'aime en fait l'aquarelle. Enfin, en tout cas, c'est l'outil avec lequel je me sens le plus à l'aise, dont je me sers pour mes bandes dessinées depuis maintenant près d'une vingtaine d'années.
Voilà, il faut anticiper en fait, c'est la liberté, mais dans la contrainte. Ce qui évoque cette phrase que vous avez notée dans vos rigoles, le bonheur c'est la liberté, mais aussi la stabilité. Il y a ça dans le choix de l'aquarelle.
Et il explique ça très bien. Je mélange tout genre de choses, je mélange opaque et transparent. Il y a aquarelle, mais avec gouache et des Posca et certains matériaux, je peux parfois aller clair sur foncé. Tu vois, une façon un peu acrylique. Si je peux dire un truc un peu technique, j'ai appris comment faire ça à travers faire la sérigraphie. Sérigraphie, tu dois travailler en plusieurs couches qui après vont être combinées. Et donc là aussi, tu dois être un peu comme un maître d'échecs, tu dois un peu anticiper ça et ça plus tard, ça va donner ça. Voilà.
Et maintenant, Brecht Evans, est-ce que vous dormez la nuit et vous travaillez le jour?
Ouais, en fait, en faisant cette gros livre de grosses sorties et tout ça, j'ai moins sorti. Parce que peut-être pour faire 340 peintures, on ne peut pas avoir la gueule de bois tout le temps.
Merci beaucoup à vous d'être passé autour de cette grande table.
Merci beaucoup.
Les rigoles chez Actes Sud BD, Brecht Evans. C'est donc le titre de ce roman graphique qui a été une fois encore consacré prix spécial du jury au Festival d'Angoulême. Merci beaucoup.
Merci.